Imaginons un instant la découverte d'un document historique absolument inestimable. Une lettre ancienne, rédigée avec une rhétorique vraiment brillante, et ça en plein cœur d'une période de bouleversement intense.
Ouais, le genre de trouvaille qui change tout, quoi.
Exactement. Mais il y a un problème majeur. La première page a été complètement arrachée.
Ah, la frustration des historiens ?
C'est ça. On n'a aucune idée de l'identité de la personne qui l'a écrite, et plus frustrant encore, on ne sait pas du tout à qui elle est adressée. Et c'est en fait le mystère exact qui entoure ce texte fascinant de l'Antiquité qu'on appelle, traditionnellement, l'Épître aux Hébreux.
C'est indéniablement l'un des plus grands puzzles littéraires et historiques de notre passé. L'absence totale d'ouverture de salutation initiale, ça nous prive du contexte immédiat, de ce cadre de référence indispensable.
On n'a vraiment rien à se mettre sous la dent.
Pas grand-chose. Le seul véritable indice géographique se trouve tout à la fin du document. C'est une simple phrase jetée presque au hasard, du genre « Ceux d'Italie vous saluent ».
Et c'est extrêmement mince pour reconstruire tout un univers social.
Complètement. C'est presque mission impossible.
Et pourtant, c'est précisément le défi de notre exploration d'aujourd'hui. Pour ceux qui suivent ce genre d'énigmes, on va plonger dans les recherches fascinantes du docteur David A. de Silva. C'est un expert qui a passé ce texte au crible de l'histoire, de la sociologie et de la psychologie.
Une approche très complète, du coup.
Voilà. Notre mission, c'est de rassembler ces analyses pour décoder cet univers. Parce que ce document, en fait, ce n'est pas qu'un traité théologique abstrait qui flotterait dans le vide. C'est une fenêtre incroyable, d'une précision redoutable sur une communauté qui est, littéralement, au bord de l'effondrement total.
Ouais, et ce qui rend cette plongée si captivante, c'est de découvrir que le plus grand ennemi de ces gens, ce n'était pas la persécution sanglante à laquelle on s'attend toujours quand on parle de l'Antiquité.
C'est ça. On imagine toujours les arènes, les lions...
Exactement. Mais là, c'était quelque chose de beaucoup plus insidieux. C'était l'attrition sociale et l'épuisement pur et simple.
Une vraie crise de dissonance cognitive profonde, quoi.
Absolument. Mais avant de pouvoir comprendre la nature de cet épuisement et la manière dont l'auteur tente de remotiver cette communauté, il faut d'abord résoudre l'énigme de son identité.
Bah oui, c'est logique.
Je veux dire, comment consoler un groupe, comment comprendre l'origine de sa douleur si l'on ne sait pas d'où il vient et quel est son bagage culturel de départ?
Alors décortiquons ça. Traditionnellement, si on garde le titre même, aux Hébreux, on imagine tout de suite un public exclusivement juif.
Ce qui semble tomber sous le sens, a priori.
C'est d'ailleurs ce que les scribes anciens ont ajouté sur les manuscrits, en supposant qu'il s'agissait de juifs convertis. Et l'argument principal pour ça, il semble logique, l'auteur utilise massivement et continuellement l'Ancien Testament pour construire tous ses arguments.
Ouais, c'est l'argument classique. L'idée sous-jacente, c'est que pour s'intéresser avec autant de passion aux textes sacrés hébraïques, il fallait forcément être juif de naissance.
C'est la conclusion facile, on va dire.
Voilà. Mais si on relie ça au tableau d'ensemble de l'Église primitive du 1er siècle, cette théorie s'effondre assez rapidement, en fait.
Vraiment, hein? Comment ça?
Prenons d'autres documents historiques de la même époque, par exemple la lettre aux Galates ou la première lettre de Pierre. Ces textes s'adressent de manière tout à fait explicite à des païens convertis.
Donc des Grecs ou des Romains purs et durs.
C'est ça, des gens qui ont abandonné le polythéisme. Et pourtant, ces lettres sont littéralement saturées de citations et de références à l'Ancien Testament.
Donc, dans les premières décennies de ce mouvement, les convertis issus du monde gréco-romain étaient tout aussi immergés dans ces textes anciens que les juifs.
Tout à fait. Il faut vraiment comprendre que pour ces anciens païens, ces écrits n'étaient plus seulement, tu vois, l'histoire des juifs. C'était devenu les oracles directs de Dieu pour eux aussi.
Ils se les appropriaient totalement.
Exactement. Ils entendaient ces textes lus, débattus et expliqués semaine après semaine lors de leur rassemblement. Donc l'argument de la familiarité avec l'Ancien Testament, ça ne prouve absolument pas que le public était exclusivement juif.
Ok, je comprends la logique, mais je dois faire l'avocat du diable ici. Et il y a quand même un point très spécifique dans ce texte qui intrigue.
Va y, je t'écoute.
L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne fait pas juste citer de beaux psaumes poétiques. Il parle constamment, et avec un niveau de détail vraiment chirurgical, de sacrifices d'animaux, du rôle très pointu des prêtres lévitiques et des rituels très spécifiques du temple de Jérusalem.
Ouais, c'est très technique.
Mais pourquoi un ancien païen de Rome, qui a grandi en vénérant Jupiter, se soucierait-il une seconde de la généalogie des prêtres lévitiques? Ça n'a aucun sens pour lui.
Eh bien, ce qui est fascinant ici, et c'est l'un des points centraux de l'analyse du docteur De Silva, c'est que la question des sacrifices était précisément le plus gros obstacle pour ces païens.
Ah bon?
Ouais.
Comment ça?
Il faut se mettre à la place d'un citoyen romain de l'époque. Tu sais, les Romains respectaient profondément l'ancienneté.
L'ancienneté, oui, la tradition.
C'est ça. Pour eux, une religion nouvelle était perçue comme une superstition dangereuse, alors qu'une religion très ancienne était digne de respect. Quand ce Romain se convertit, on lui dit que l'Ancien Testament met désormais son texte sacré.
Donc il est ravi, il a une religion avec des racines millénaires.
Génial, non, hein ? Mais il commence à lire. Et que trouve-t-il ? Des instructions interminables expliquant comment égorger des taureaux, asperger du sang partout et construire des autels pour être purifiés.
Ce qui devait lui paraître complètement archaïque ou barbare.
Exact. La question urgente, existentielle même, pour ce converti païen, c'est « Comment puis-je m'approprier la légitimité de ce texte divin sans pour autant devoir me rendre à Jérusalem pour sacrifier des chèvres selon la loi lévitique ?»
Ah, la nuance est brillante. Donc, pour un citoyen romain, ce texte était le compromis parfait.
C'est exactement ça.
Il gagnait l'ancienneté prestigieuse de la tradition juive, ce que les Romains adoraient, mais sans avoir à subir les rituels physiques et sanglants qui leur étaient totalement étrangers. C'est une pirouette théologique majeure, en fait.
C'est brillant. L'auteur leur montre comment conserver l'autorité du texte ancien, tout en expliquant, point par point, pourquoi les rituels matériels sont devenus obsolètes. Il construit tout un argumentaire pour prouver que la réalité spirituelle a remplacé l'ombre du rituel matériel.
C'est fou quand on y pense.
Oui, et c'est pourquoi l'auditoire de cette lettre était très probablement un groupe mixte, réunissant à la fois des juifs et une grande proportion de non-juifs. C'était probablement le fruit des grandes missions à travers l'Empire, particulièrement autour de Rome.
D'où la fameuse mention de l'Italie à la fin.
Tout juste. Et un détail crucial sur leur statut, ce n'était pas qu'un groupe de marginaux démunis. L'auteur met en garde plus tard contre l'ambition sociale et évoque des biens matériels.
Donc ça veut dire qu'au moins une partie d'entre eux avait un statut social respecté et des propriétés à perdre.
Exactement. Ils avaient beaucoup à perdre.
Mais du coup, pour comprendre comment un groupe aussi hétéroclite, mêlant des juifs respectueux de la loi et des romains fraîchement sortis des temples païens, a pu se former sans exploser de l'intérieur, il faut observer leurs débuts. Et visiblement, leurs débuts ont provoqué de sérieuses étincelles dans la société antique.
Ok, oui. La phase de lune de miel de cette communauté a été proprement volcanique.
Volcanique, c'est le mot.
Au chapitre 2, Loplan nous donne un aperçu de leurs origines. Il décrit une conversion collective marquée par des expériences charismatiques, super intenses, validées par des signes, des prodiges et une expérience bouleversante de l'Esprit-Saint.
Une vraie révolution interne pour eux.
Oui, et cette légitimation spirituelle a été le carburant qui leur a donné l'audace de rompre radicalement avec leurs anciennes vies.
C'est un peu comme demander l'asile politique dans un pays totalement étranger, mais au niveau spirituel et social. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre une nouvelle philosophie en lisant un livre.
Non, ça va bien plus loin.
On coupe littéralement les ponts avec sa famille d'origine, on renonce à sa citoyenneté symbolique, et on doit réapprendre l'alphabet d'une culture complètement nouvelle. Le texte mentionne d'ailleurs un programme de formation initiale en 6 piliers.
C'est ça, le chapitre 6.
Et parmi eux, il y a la fameuse « repentance des œuvres mortes ». À première vue, on pourrait croire que c'est juste une formule générique pour parler de mauvaises habitudes morales, tu vois.
C'est l'erreur que font beaucoup de lecteurs modernes, ouais. Mais dans le contexte littéraire du 1er siècle, c'est beaucoup plus ciblé.
C'est-à-dire ?
Le terme grec utilisé pour « morte », c'est « nécra ». Or, dans la littérature judéo-hellénistique de l'époque, comme le livre de la Sagesse de Salomon, ce mot désigne spécifiquement les iboles.
Ah, les statues.
Voilà. Les statues façonnées de mains d'hommes, qu'elles soient de pierre ou de bois, ce sont des choses mortes. Donc, la repentance des œuvres mortes, c'est très clairement l'abandon physique et définitif de l'idolâtrie païenne.
Ce qui prouve encore une fois qu'il y avait des païens dans le groupe.
Exactement. Et à ça s'ajoutaient la foi, les enseignements sur les purifications ou baptêmes, l'imposition des mains, le jugement éternel et surtout la résurrection des morts.
Et ce dernier point, la résurrection des morts, ça devait être un véritable choc culturel pour un esprit gréco-romain.
Totalement absurde pour eux, oui.
Bah oui, parce que dans la pensée philosophique de l'époque, fortement influencée par le platonisme, le corps matériel était perçu comme une prison pour l'âme. Le but ultime, c'était d'échapper à la matière.
Exactement, s'en libérer. Alors, l'idée que le salut divin implique de ressusciter un corps physique, c'était considéré comme une régression grossière.
C'était dégoûtant pour eux.
Totalement. Accepter ce programme de formation nécessitait donc une reprogrammation psychologique et intellectuelle totale pour ces païens.
Une refonte du système d'exploitation. Mais inévitablement, cette nouvelle identité radicale a provoqué un rejet brutal à l'externe. l'auteur évoque des jours anciens où ce groupe a traversé un véritable baptême du feu. On parle de harcèlement public, d'emprisonnement, de confiscation de leurs biens.
C'était violent, ouais.
Et c'est là que la dimension sociologique prend tout son sens.
Oui, pour bien saisir la violence de cette réaction, il faut vraiment s'immerger dans les réalités de la culture gréco-romaine, qui fonctionnait entièrement sur l'axe de l'honneur et de la honte.
C'était pas juste un sentiment, la honte.
Non, l'honneur, c'était la monnaie d'échange social absolue. C'était nécessaire pour faire des affaires, marier ses enfants, exister publiquement. Le philosophe Sénèque rappelait d'ailleurs que l'honneur était recherché pour lui-même, au-dessus de tout.
Donc concrètement, quand ces nouveaux convertis arrêtaient de participer au rituel de la ville, ça ne passait pas inaperçu.
Ah non, impossible.
Si tu étais artisan à l'époque, tu faisais partie d'une guilde, un collégium. Et les réunions de ces guildes commençaient toujours par un sacrifice aux dieux ou à l'empereur. Refuser d'y participer, c'était littéralement s'exclure du réseau économique local.
Exactement, c'était un suicide social. Pour un païen de l'Antiquité, la religion civile, ça cimentait la cohésion de la cité.
Ça tenait tout ensemble.
Voilà. Donc refuser d'honorer les dieux locaux s'apparentait à de l'athéisme pur et simple. Et suivre les enseignements d'un leader qui avait été exécuté pour sédition par l'Empire romain, c'était perçu comme une menace grave à l'ordre public.
Et du côté de leurs voisins juifs, cette nouvelle communauté mixte chopait tout autant, j'imagine.
Tout autant, oui. Car elle effaçait des frontières identitaires considérées comme sacrées en partageant des repas et des vies avec des non-juifs non circoncis.
Ils fâchaient tout le monde, quoi.
Exactement. Et dans les deux cas, la réaction de la société a été d'utiliser l'arme de la honte publique et de la violence pour les corriger et les forcer à rentrer dans le moule.
Mais face à cette pression initiale écrasante, ce qui est fascinant, c'est qu'ils n'ont pas cédé. La lettre raconte qu'ils ont répondu de manière spectaculaire, avec une solidarité inébranlable. Ils ont accepté la perte de leurs biens matériels avec joie, et ils allaient visiter leurs membres en prison au péril de leur propre réputation et de leur liberté.
Ils ont fait preuve d'une résilience héroïque, franchement. Ils ont passé le test de la crise initiale avec brio.
Mais du coup, si cette communauté a fait preuve d'une telle résilience face à la violence frontale du début, la question s'impose. Pourquoi l'auteur sonne-t-il l'alarme avec une telle urgence maintenant? Que se passe-t-il au moment précis où il rédige ce texte pour qu'il semble aussi paniqué?
Eh bien, la révélation clinique de l'analyse du docteur Di Silva, c'est qu'il n'y a pas de nouveau tyran.
Pas de nouveau Néron?
Non, pas de nouvelle vague de persécution majeure. Les lynchages publics et les saisies de biens, ça semble appartenir au passé. De plus, il n'y a pas de crise théologique majeure ou d'hérésie fascinante.
Attends, juste pour évacuer une idée reçue très commune sur ce texte. On entend parfois dire qu'ils avaient commencé à sombrer dans un culte des anges. Parce que, l'auteur passe le premier chapitre à argumenter sur la supériorité du Christ par rapport aux anges.
Ouais, c'est un excellent exemple du piège de la surinterprétation en miroir.
C'est-à-dire ?
C'est un biais très courant en histoire. Si un auteur défend vigoureusement une idée, on suppose automatiquement que son auditoire croyait exactement l'inverse. Mais rien, sur le plan historique ou sociologique, ne soutient que cette communauté vénérait des anges.
D'accord, c'est juste rhétorique alors.
C'est ça, c'est une technique classique pour élever le statut de son message, en affirmant qu'il a été transmis par un canal supérieur à celui des anges. Non, la véritable maladie qui ronge ce groupe, ce n'est pas une hérésie, c'est la perte d'engagement.
L'usure, quoi.
Une usure lente, terne et complètement silencieuse. L'auteur note, au chapitre 10, qu'un certain nombre d'entre eux ont pris l'habitude de tout bonnement ne plus assister au rassemblement de la communauté.
On connaît tous ce sentiment, tu sais, quand on part pour un très long voyage en voiture. Au moment du départ, tout le monde est surexcité. L'adrénaline est à son comble. On affronte les premiers gros bouchons de la ville avec le sourire. On est solidaire parce qu'on a un objectif clair.
Ouais, la fameuse lune de miel du voyage.
Voilà. Mais au bout de 12 heures de route droite, plate et monotone, l'excitation a totalement disparu. La destination promise semble irréelle, voire inatteignable. On commence sérieusement à se demander pourquoi on n'est pas simplement resté confortablement chez soi.
C'est exactement ça.
La banalité silencieuse du quotidien s'avère infiniment plus mortelle pour leur conviction que la violence des foules du début. Ils sont frappés de plein fouet par la dissonance cognitive de ce que j'appellerais l'entre-deux.
L'analogie du long voyage capture parfaitement leur état psychologique. Ils ont quitté leur cité terrestre, métaphoriquement parlant. Ils ont accepté de perdre leur statut social, leur sécurité financière, leur réseau. Mais les années ont passé et ils n'ont toujours pas atteint la gloire de la cité céleste qu'on leur avait promise.
Et c'est long d'attendre.
Très long. Et cet entre-deux prolongé devient psychologiquement insupportable. Vivre sans honneur, exister en tant que marginalisé, devoir constamment raser les murs année après année, c'est profondément épuisant.
C'est usant.
Le danger mortel ici, ce n'est pas la compromission idéologique fracassante. C'est l'accommodement silencieux. C'est l'envie viscérale de retrouver un statut social confortable, de renouer avec d'anciens amis païens ou juifs, et de s'intégrer à nouveau pour retrouver un peu de paix.
Ce n'est pas un feu de forêt. C'est la rouille qui attaque les fondations. Et face à cette érosion silencieuse, comment l'auteur tente-t-il de sauver le navire ?
Il déploie une stratégie rhétorique extrêmement sophistiquée.
Elle est articulée autour de trois piliers d'intervention, c'est ça ?
Le premier pilier, c'est un travail magistral de recadrage. Il redéfinit complètement le concept de la honte.
Exactement. Il comprend qu'il doit neutraliser l'arme principale de la société gréco-romaine. Pour cela, dans le célèbre chapitre 11 de la lettre, il dresse un vaste tableau des grandes figures historiques et héroïques.
Abraham, Moïse.
Et finalement Jésus lui-même. Sa démonstration sociologique est brillante. Il montre que tous ces héros, sans aucune exception, ont dû affronter l'opprobre, l'exil et le rejet profond du monde de leur époque pour obtenir, in fine, l'honneur divin.
Il redéfinit ainsi la marginalisation de ses lecteurs. C'est ça. Ce qu'ils vivent n'est pas une honte sociale, c'est un concours noble. Ils utilisent même le concept grec très respecté de paideia, c'est-à-dire la discipline ou l'éducation rigoureuse.
C'est un entraînement sportif, en quelque sorte.
Les difficultés quotidiennes ne sont pas la preuve que Dieu les a abandonnés, mais plutôt l'entraînement intensif nécessaire pour former leur caractère.
Il prend le stigmate de la marge et en fait une médaille d'honneur. C'est fort. Mais le deuxième pilier de sa stratégie est peut-être celui qui nous est le plus étranger aujourd'hui, culturellement. Il fait appel à la psychologie du favoritisme antique, le système du patronage.
Oui, et pour vraiment saisir la force de frappe de cet argument, il faut comprendre le fonctionnement de l'économie sociale gréco-romaine. Il n'y avait pas d'État-providence, pas d'institutions sociales, pas de banques modernes comme on les connaît.
Pas d'assurance chômage ?
Non, rien de tout ça. Tout le tissu social reposait sur le mécénat et la réciprocité. Si un paysan avait besoin de grains pour semer son champ après une famine, ou si un jeune poète cherchait une protection légale, il devait s'en remettre à la faveur d'un bienfaiteur plus riche et puissant, un patron.
Et le client devenait redevable.
Totalement. Et cette transaction créait un lien asymétrique mais vraiment sacré, résumé par le mot grec « charis », qu'on traduit souvent religieusement par « grâce ».
Sauf que dans les rues de Rome ou de Corinthe, ce nom avait des implications très très matérielles, n'est-ce pas ?
Complètement. Charis englobait un cycle en trois temps. C'est d'abord l'attitude bienveillante du patron. Ensuite, c'est le don matériel, la faveur elle-même. Et enfin, c'est la gratitude obligatoire, la démonstration publique de loyauté du client en retour.
Un échange de bons procédés, mais vital.
Prenons un exemple concret. Si un riche sénateur te fournissait une aide financière, tu devais, en tant que client, te présenter chaque matin devant sa maison pour la salutation.
Faire la queue devant chez lui tous les matins, ouais.
Voilà, pour le saluer publiquement et bien sûr voter pour lui ou ses alliés au forum. Rompre ce cycle, refuser de montrer cette gratitude publique, c'était carrément s'exclure de l'humanité civilisée.
Ce n'était pas juste un manque de politesse, c'était une trahison formelle. Donc, si on applique cette grille de lecture au texte de l'Épître, le fait pour un membre de cette communauté de cesser de venir aux réunions, de déserter le groupe pour retourner à sa vie païenne d'avant, ce n'est pas du tout perçu comme une simple évolution personnelle de la foi.
Ah non, pas du tout.
C'est carrément l'insulte publique suprême envers leur bienfaiteur céleste.
C'est l'essence même de son argumentaire, oui. Et c'est ce qui explique le ton terrifiant de certains passages. Déserter, c'est déclarer publiquement devant toute la cité que le don inouï du bienfaiteur cosmique, obtenu selon eux au prix du sang de son propre fils, bah, ça a finalement moins de valeur que la simple acceptation sociale de quelques voisins païens.
C'est un camouflet absolu.
C'est cracher au visage du donateur suprême au vu et au su de tous. C'est pour cela que l'auteur utilise un vocabulaire d'outrage et de châtiment qui choque souvent le lecteur moderne.
On comprend mieux pourquoi il a des mots si durs.
Dans ce monde de mécénat, offenser un tel patron ne pouvait entraîner qu'une ruine totale.
Un individu isolé, qui est déjà épuisé par des années de marginalisation, elle doit être absolument écrasante. Comment faisait-il pour ne pas s'effondrer seul ?
Eh bien, c'est précisément ce qui amène l'auteur à son troisième pilier, le soutien mutuel intensif.
Il devait faire bloc.
L'auteur est un grand réaliste sur le plan psychologique. Il sait très bien que la persévérance ne peut pas être un acte de volonté purement individuel.
Surtout quand on est fatigué.
Il insiste donc lourdement sur la responsabilité collective du groupe. Il leur donne pour consigne de veiller les uns sur les autres, de s'encourager quotidiennement, littéralement tant qu'on peut dire aujourd'hui. La survie dépend de la cohésion de la meute.
On trouve d'ailleurs au chapitre 5 un reproche très direct, presque piquant. l'auteur fait remarquer que certains membres, qui sont dans la communauté depuis de nombreuses années, devraient déjà être devenus des enseignants capables d'encadrer les autres.
Ouais, il les secoue un peu.
Au lieu de cela, ils ont encore besoin qu'on leur rappelle les bases. L'analyse sociologique révèle ici une dynamique très puissante. Si ces membres anciens avaient joué leur rôle de tuteur pour soutenir les plus fragiles, peut-être que personne n'aurait commencé à déserter.
C'est un échec systémique, en fait.
La chute d'un seul individu n'est jamais vue comme un échec isolé. C'est l'échec de tout le réseau de soutien.
La dynamique de groupe est vitale, parce que la désertion, c'est contagieux. Le départ silencieux d'un membre érode immédiatement la conviction de ceux qui restent, qui commencent inévitablement à se dire « Bon, s'il en vient à la conclusion que tout ce sacrifice n'en vaut plus la peine, pourquoi est-ce que je continue de m'accrocher, moi ?»
C'est un effet domino.
L'antidote proposé par l'auteur, c'est de resserrer les rangs à l'extrême, de combler chaque brèche par un soutien relationnel vraiment dense.
Toute cette stratégie de gestion de crise, ce sentiment d'une urgence absolue pour resserrer les rangs, ça soulève une question fondamentale sur le calendrier. À quel moment précis de l'histoire cette usure psychologique devient-elle si critique?
Il faut placer ce drame humain sur une ligne du temps.
C'est indispensable, oui. Et c'est là, au cœur de cette enquête historique, qu'un simple détail de grammaire devient la pièce à conviction principale.
Et dater un document anonyme de l'Antiquité, ça demande un vrai travail de détective. Nous avons d'abord un plafond temporel, clair, l'an 96 de notre ère.
Qu'est-ce qui se passe en 96?
À cette date, un évêque nommé Clément de Rome cite déjà abondamment l'épître aux Hébreux. Le texte existait donc forcément avant cette date. Un autre détail, c'est la mention de Timothée, une figure de la première génération, qui vient d'être libérée.
D'accord, donc on resserre les taux.
Mais le véritable séisme académique, la ligne de faille dans la datation, se situe autour de l'an 70.
L'année dramatique où les légions romaines ont assiégé Jérusalem et réduit le temple en cendres, le centre gravitationnel absolu du monde juif.
Exactement. Et l'indice grammatical clé pour savoir si nous sommes avant ou après cet incendie ravageur se trouve dans la façon dont l'auteur de notre texte décrit les rituels de ce temple. Il utilise systématiquement le temps présent.
Il écrit comme si le temple était toujours debout.
Oui. Il écrit que les prêtres lévitiques se tiennent jour après jour pour offrir leurs sacrifices ou encore que les dons sont offerts selon la loi. Il pose même une question rhétorique mordante au chapitre 10. Si ces anciens sacrifices permettaient vraiment de purifier les gens de manière parfaite, n'auraient-ils pas cessé d'être offerts?
Donc ça veut dire que ça continue à ce moment-là?
Niment. Cela suggère très fortement que la machine sacrificielle tournait encore à plein régime devant ses yeux au moment où il trempait sa plume dans l'encre.
Mais tant, je dois faire mon sceptique encore une fois. L'argument du temps présent, ce n'est pas un peu fragile quand on y pense? L'histoire regorge de peuples en exil ou vaincus qui continuent de parler de leurs monuments disparus au présent, par pure nostalgie ou refus de la réalité.
C'est vrai, ça arrive souvent.
N'est-il pas possible que l'auteur décrive le temple au présent, même des années après sa destruction par les Romains, juste par habitude littéraire?
C'est une objection tout à fait légitime. Et d'ailleurs, l'histoire littéraire nous en donne des preuves. Par exemple, l'historien juif Flavius Joseph ou les érudits qui ont compilé la Mishnah juive ont continué à décrire les rituels du temple avec des verbes au présent, bien après le désastre de l'an 70.
Donc ça détruit notre argument de datation.
Pas si vite. Si l'on applique cette comparaison à l'épître aux Hébreux, le parallèle s'effondre face à l'intention de l'auteur.
Pourquoi ?
Pourquoi Joseph ou les auteurs de la Mishnah utilisaient-ils le présent? Parce qu'ils portaient un deuil immense, ils gardaient l'espoir brûlant de la restauration imminente du temple, comme cela s'était produit des siècles auparavant.
Ils écrivaient pour maintenir le système en vie dans la mémoire collective.
Exactement. Alors que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, lui, il est dans une posture de rupture totale. Il n'éprouve pas la moindre once de nostalgie pour l'édifice de pierre.
Ah oui, c'est brillant. Toute la thèse théologique de l'auteur consiste à démontrer, point par point, que l'ancien système des sacrifices matériels est inefficace, vieilli et définitivement rendu obsolète par l'avènement d'une nouvelle réalité spirituelle.
Voilà. Si le temple de Jérusalem avait déjà été pulvérisé par l'armée romaine au moment où il écrivait, il ne l'aurait pas ignoré.
Il s'en serait servi comme de la preuve ultime.
Bien sûr. Il l'aurait crié sur tous les toits. Ça aurait été la preuve historique incontestable que Dieu lui-même avait mis fin au système lévitique. Le fait qu'ils n'évoquent jamais cette destruction et qu'ils doivent batailler si âprement au présent contre l'attrait d'un système rituel fonctionnel, c'est la preuve quasi certaine pour le docteur De Silva que ce texte a été écrit juste avant le cataclysme de l'an 70.
Ce qui place notre communauté dans une fenêtre temporelle incroyablement tendue. Ils sont épuisés, tentés de tout abandonner pour retourner dans le rang de la société gréco-romaine, et ça quelques années, peut-être quelques mois seulement, avant qu'un bouleversement géopolitique majeur ne vienne donner raison à leur endoctrinement initial.
C'est un timing dramatique, vraiment.
Pour résumer toute notre exploration d'aujourd'hui, on réalise que cette lettre sans nom, sans expéditeur ni destinateur explicite, c'est aux antipodes d'un traité philosophique ennuyeux. C'est le cri de ralliement stratégique, sociologique et profondément humain d'un leader.
Un leader désespéré de sauver les siens.
Un leader qui tente, par tous les moyens rhétoriques possibles, de réveiller un groupe d'hommes et de femmes usés par l'attente prolongée, rongés par l'isolement social et séduits par la facilité d'un retour à l'anonymat civique.
C'est le diagnostic intemporel d'une crise née non pas de la terreur, mais de la fatigue de la marge. L'attrition est souvent un ennemi bien plus redoutable que l'épée.
Et cette plongée dans les dynamiques sociales du premier siècle soulève au final une question vertigineuse sur la nature humaine en général. On a tendance, tout au long de notre vie, à se préparer mentalement à affronter les grandes tempêtes.
Ouais, on s'imagine en héros.
On imagine comment on ferait face à une crise majeure, un moment paroxystique qui exigerait de nous un courage absolu et immédiat, un peu comme ces croyances antiques affrontant la foule en colère au premier jour. Mais que se passe-t-il une fois que l'adrénaline est complètement retombée, que le nouveau statut est devenu banal et que la ligne d'arrivée semble se dérober indéfiniment vers l'horizon?
C'est là que ça devient difficile.
Cette exploration nous laisse avec cette réflexion troublante. Pour notre auditoire, on peut se demander si le test ultime de nos convictions profondes et de nos choix de vie ne réside peut-être pas du tout dans la résistance ardente face à la première grande opposition. Le test absolu, c'est peut-être notre capacité mentale et collective à survivre à l'usure d'un banal mardi après-midi, 10 ans plus tard, quand la simple envie de faire comme tout le monde devient la tentation la plus séduisante et la plus destructrice qui soit.
C'est vraiment le triomphe de la persévérance silencieuse face à l'attrait irrésistible de la normalité.
Un immense merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de l'Antiquité, de la sociologie et de la psychologie humaine. Continuons à interroger le passé, car les luttes des anciens ont souvent le pouvoir inattendu de décoder notre propre présent. À très bientôt pour une nouvelle exploration.